tout à fait.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Le statut des Roms instituant la CPI, Cour pénale internationale, a été adopté le 17 juillet 1998 et ratifié quelques années après par les États membres dont la RDC. Aujourd'hui, 22 ans après, quel est l'impact des actions de la CPI en RDC dans la lutte contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par certains Congolais et les crimes d'agression? Communiquez-nous votre numéro pour participer à ces débats. Et participez en direct au 081 890 63 30 ou bien au 081 890 49. Vous pouvez également commenter ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien sur notre page Facebook. Vous êtes près de 10 383 à avoir été touchés par ces sujets. 665 parmi vous ont interagi et 134 parmi vous l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Sylvain Bangouéré assure la mise en œuvre de cette émission réalisée par Pierrot et Lameji et J.R. Lungembo Labung Anji est à la présentation et à la coordination de ce programme. Bonne condition d'écoute à tous et à toutes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Patrick Tchibouyi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de la sensibilisation auprès de la CPI. 22 ans après sa création, est-ce que la CPI garde encore son prestige pour lequel elle a été créée?
D'abord, il faut rappeler que le 17 juillet est une date importante hein, dans l'histoire de la justice pénale internationale. C'est cette date que les États ont adopté le statut de Rome, 120 États ont adopté le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et dès le départ, il faut saisir l'essence même de sa création, de son existence. La Cour pénale internationale n'a pas été créée pour remplacer le système national, les juridictions nationales. La Cour pénale internationale a été créée pour pouvoir contribuer à la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression. Et donc, au regard de cette responsabilité, de ce mandat de la Cour qui est un mandat strictement judiciaire et dont les règles sont définies clairement par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Cour continue à jouer son rôle, continue à remplir son mandat, qui est un mandat purement judiciaire.
Purement judiciaire, est-ce que vous confirmez qu'il garde, que la Cour garde encore son prestige aujourd'hui?
Oui, parce que la Cour pénale internationale est restée et reste dans le mandat qui est le sien. Son mandat est un mandat judiciaire. Il s'agit pour la Cour pénale internationale de pouvoir participer à la lutte contre l'impunité, de pouvoir mener des enquêtes, éventuellement poursuivre les personnes considérées comme étant responsables des crimes les plus graves. Au regard donc de sa nature en tant qu'institution judiciaire, la Cour pénale internationale continue à exercer son mandat et sur le plan international, elle s'est affirmée comme étant une institution de référence, une institution judiciaire qui, au travers de son action judiciaire, contribue et apporte sa contribution dans la lutte contre l'impunité.
Alors, beaucoup de critiques sont formulées contre cette institution que d'aucuns qualifient d'ailleurs d'être une cour pour les Africains.
Alors, c'était vraiment l'occasion de pouvoir préciser cette relation qui est entre la Cour pénale internationale et l'Afrique. Premièrement, il faut que les auditeurs puissent se rappeler que le premier État qui a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'est vrai que le statut de Rome a été adopté le 17 juillet 1998, mais le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été ratifié par 60 États. Et le premier pays parmi ces 60 États qui a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, c'est un pays africain, c'est le Sénégal. Deuxième élément, lorsque vous constatez le nombre des pays membres de la Cour pénale internationale en termes de régions, la région la plus représentée, c'est la région Afrique, qui a le plus de nombre d'États membres de la Cour pénale internationale. Donc il y a une histoire entre la Cour pénale internationale et l'Afrique, et donc de ce postulat, on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale a été créée contre les Africains. c'est encourageant que certains pays africains puissent eu à saisir la Cour pénale internationale. En saisissant la Cour pénale internationale, ces États ont manifesté leur volonté de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves. Donc les premières affaires qui ont été portées devant la Cour pénale internationale ont été portées par les États africains eux-mêmes. On ne peut pas leur reprocher cela, puisque en saisissant la Cour pénale internationale, ces États africains, membres de la Cour pénale internationale, ont utilisé un mécanisme prévu par le statut de Rome, et en le faisant, ces États ont manifestement démontré leur intention de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves. Donc c'est faux de penser et de croire que la Cour pénale internationale a été créée rien que pour les Africains. C'est tout à fait faux.
Est-ce que la relation aujourd'hui entre la CPI et les États-Unis ne laisse pas croire qu'effectivement cette institution est en train de perdre son prestige?
Non. Ce que l'on peut vous dire de manière générale par rapport à la question que vous posez, c'est que il y a un État, certes, qui a une position qui lui prend par rapport à la Cour pénale internationale, mais cela n'empêche pas à la Cour, et le président de l'Assemblée des États partis dans sa déclaration récente a eu encore le réaffirmé, que la Cour reste une juridiction indépendante, une juridiction impartiale. Une juridiction qui n'est guidée que par le prescrit du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et qui plus est, le président de l'Assemblée des États partis dans sa déclaration, comme dans son communiqué, comme aussi la Cour pénale internationale dans sa déclaration récemment, ont eu à rappeler que la Cour est une juridiction complémentaire. Le statut de Rome n'a pas créer la Cour pénale internationale pour qu'elle vienne remplacer le système national. En d'autres termes, il revient aux États, en premier lieu, la responsabilité de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, et la Cour pénale internationale n'interviendrait que si les États n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité. Donc au regard de cela, la Cour pénale internationale reste toujours, elle demeure comme cela a été voulu par le statut de Rome, comme cela a été voulu par les États partis que l'on créait, elle reste, elle demeure une institution judiciaire indépendante, une institution judiciaire impartiale, qui n'a comme seul mandat qu'un mandat strictement judiciaire.
Alors si nous lisons le préambule instituant donc la CPI, on se rend compte que le parti au présent, les partis au présent statut étaient tous déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes de guerre, contre l'humanité. Donc, en d'autres termes, on peut dire que c'était une façon aussi de pouvoir dissuader ou encore lutter contre ces crimes en décourageant ceux qui étaient censés en commettre. Mais aujourd'hui, le cas de la RDC, on se rend compte que finalement, l'objectif n'a pas été atteint. C'est vrai qu'il y a eu des auteurs des crimes de guerre en 2002-2003 ont été déférés à la CPI, mais aujourd'hui, nous en comptons encore d'autres groupes qui sont créés.
L'élément qu'il faut apporter comme précision, c'est que dans la situation en RDC, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes. On a eu un certain nombre d'affaires qui ont découlé des enquêtes qui ont été ouvertes par le procureur de la Cour pénale internationale. Et la situation en RDC, comme l'a déjà eu à le dire à plusieurs reprises le procureur de la Cour pénale internationale, que le bureau du procureur suit de près la situation sur toute l'étendue de la RDC. Mais l'action du procureur de la Cour pénale internationale ne peut pas se faire en dehors du cadre du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et ce cadre pose un élément fondamental qui est celui qu'on appelle la complémentarité. Donc, il revient d'abord à la RDC en tant qu'État parti au statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi qu'aux autres États aux autres États membres de la Cour pénale internationale, et aussi qu'aux autres États de manière générale, de pouvoir eux-mêmes en premier lieu d'assurer la justice en poursuivant les auteurs des crimes les plus graves. Quitte à ce que la Cour pénale internationale ne puisse intervenir qu'en cas de manque de volonté, en cas de manque de manque de capacité. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une action judiciaire importante réalisée en RDC par rapport aux crimes les plus graves. Il y a des procès qui ont eu lieu pour lesquels des auteurs de crimes les plus graves sont poursuivis. Il y a encore du travail à faire, c'est vrai, mais pour la Cour pénale internationale, comme je l'ai dit, le bureau du procureur a déjà eu annoncé à plusieurs reprises que son bureau continue à suivre avec attention la situation sous l'étendue de la RDC. Les contacts demeurent entre le bureau du procureur et les autorités congolaises par rapport à l'évolution de la situation au regard du principe de complémentarité. Mais comme nous l'avons dit, il faut aussi noter un travail qui est fait par la justice nationale par rapport aux crimes les plus graves.
Mais le procureur l'a dit également depuis 2010 qu'il est en train de suivre de près la situation en RDC. En 2015, il y a eu des crimes qui ont été commis, il y a eu des cas d'assassinat. Aujourd'hui, dans l'est du pays, il y a également le jour la naissance des groupes armés. Alors, mais jusqu'à quand le procureur continuera à suivre de près et sans des actions concrètes?
Les échanges, l'action du bureau du procureur, comme on l'a dit dès le départ, est une action qui s'inscrit dans le cadre de cet instrument fondamental qu'est le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mmh. Il est vrai que vous citez un certain nombre d'événements qui sont en cours, mais il ne faut pas oublier aussi qu'au regard de ces événements, il y a un travail qui est fait par la justice nationale. Le bureau du procureur, même dans sa déclaration récente, rappelez-vous que le bureau du procureur a fait une déclaration récente le 4 juin par rapport à la situation prévalant en Ituri, où le bureau du procureur a eu à dénoncer les actes graves qui sont commis en Ituri. C'est une déclaration du 4 juin. Et dans cette déclaration, elle a encore rappelé ce cadre de la complémentarité. Mais là également, le bureau du procureur a également annoncé l'envoi d'une mission de son bureau pour échanger avec les autorités congolaises au regard de la situation, au regard de la hiérarchie des affaires, au regard de la complémentarité, afin de voir ce qu'il en est par rapport à la situation qui prévaut. Donc le postulat de départ est toujours de pouvoir respecter cette responsabilité première de la justice nationale, parce que c'est elle qui a la première responsabilité, la Cour interne de juridiction complémentaire, mais n'empêche que le bureau du procureur a toujours rappelé que cette situation, elle le suivait, elle a maintenu, le bureau du procureur a maintenu le contact avec les autorités congolaises par rapport à ces différents dossiers, mais son travail ne peut se faire qu'en respectant le principe de la complémentarité.
Alors, il a été annoncé l'arrivée d'une délégation de la CPI ce week-end. Est-ce que vous la confirmez? Quel sera le but de cette mission, de ces séjours?
Non, il n'y a pas de mission du bureau du procureur qui vient le week-end. La déclaration du bureau du procureur du 4 juin avait annoncé la venue d'une mission. Évidemment, la mission qui viendrait en tenant compte de la situation par rapport au Covid, mais nous n'avons pas de date qui a été annoncée sur cette mission. Et cette mission n'est pas une mission des enquêteurs. Ce ne sont pas des enquêteurs du bureau du procureur qui vont venir. Ça a été clairement dit dans la déclaration du 4 juin. Donc, il ne s'agit pas d'une mission des enquêteurs et nous n'avons pas une date qui a été annoncé pour la venue de...
Donc c'est faux qu'il y a déjà des autorités qui sont sur le viseur de la CPI, comme l'a dit beaucoup de commentaires sur la toile.
Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, de date annoncée pour la mission. La déclaration a certes dit qu'une mission viendrait. On le répète encore, c'est pas une mission des enquêteurs. Mmh. Et il faut aussi se rappeler que le procureur, son action est guidée par, de manière générale, par des éléments de preuve qui sont en sa possession, qu'elle peut avoir. Donc ici, il n'est pas question de personnaliser. Il n'y a pas de personnalisation de l'action du procureur de la Cour pénale internationale. Et à ce stade ici, il ne s'agit pas d'une mission des enquêteurs et nous n'avons pas de date annoncée dans la déclaration pour la venue de cette mission.
Merci de nous avoir apporté cette précision. Patrick Tshibouyi, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui veulent participer dans cette émission, qui veulent également placer un mot. Et puis on reviendra pour parler, parce qu'on vous l'avait évoqué, la complémentarité et cette notion de la subsidiarité et qui, au fait, aujourd'hui, avec le cas d'Hissène Habré, l'ancien président de Tchad, et qui a été, en tout cas, jugé ici en Afrique et condamné en Afrique. Donc on reviendra sur cette question. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Radio Capi
vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Capi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h, en rediffusion de 20h à 22h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h, en rediffusion de 22h à 23h, heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15. Jusqu'à 20h, en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30, heure de Kinshasa. Radio Capi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Les statuts des Roms instituant la CPI, Cour pénale internationale, a été adopté le 17 juillet 1998 et ratifié quelques années après par les États membres. Aujourd'hui, 22 ans après, quel est l'impact des actions de la CPI en RDC dans la lutte contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par certains Congolais et les crimes d'agression? En d'autres termes, quel est le bilan que vous faites, vous, personnellement? Jean-Marie, vous êtes à Kasumbalesa, je crois que c'est cela, Jean-Marie?
Bonjour, Monsieur Nojali.
Oui, Jean-Marie, vous êtes à Kasumbalesa. Quel est le bilan que vous faites, vous, personnellement, sur l'action de la CPI en RDC?
Vraiment, selon le sujet, Monsieur le journaliste, en RDC, je vois le bilan est tellement négatif par rapport à la CPI et la RDC. Pourquoi? On entendait la CPI, c'est comme si c'était une cour qui pouvait mettre la correction sur les gens ou bien sur les criminels. Mais en action, devient un slogan pour les intimidations par rapport à ceux qui meurent des crimes. Si vous m'entendez bien.
Oui, oui. Donc si j'ai compris bien pour vous, le bilan il est négatif parce qu'il y a encore des criminels qui courent les rues.
Pardon?
Pour vous, vous dites que le bilan est négatif parce qu'il y a encore des criminels qui ne sont pas inquiétés.
Effectivement, en RDC, c'est-à-dire des criminels effectuent leur mouvement en toute sécurité. Parce que ça fait déjà 22 ans. En RDC, à l'est du pays, les gens meurent chaque jour et chaque nuit, et la CPI n'intervient pas. Pour moi, je dis, c'est une façon seulement d'intimider ces gens-là, aussi longtemps que c'est la CPI qui les encourage. Parce que, si vous comptez aujourd'hui, en RDC, par exemple, quand on dit, en RDC, les gens meurent. Depuis 2006-2003. Qui est-ce qu'on a arrêté ici pour dire que c'est un criminel ou bien on l'a arrêté à la CPI pour
oui,
dire
que c'est un criminel? Oui, mais Thomas Lubanga était à la CPI. Et tant d'autres, le Goudjolo et les autres, ils étaient à la CPI.
Et il était condamné pour combien d'années? Ouais. Tout ça, c'est juste une manière d'intimider les gens-là. Mais derrière, il y a la corruption à la CPI. Là. Si vous avez de l'argent en RDC, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'acheter même la CPI.
Est-ce que vous partagez l'avis qu'il faut sortir de la CPI, comme le pensent certaines personnes, que l'RDC puisse quitter la CPI?
Par exemple, l'affaire de Jabir Mbaye est dehors maintenant. Il avait 20 ans de prison. Maintenant, il est sorti, je pense, à 8 ans, je pense. Vous voyez? Tout ça, c'est l'affaire de l'argent qui passe là-bas. C'est-à-dire, on intimide tellement des gens là pour qu'ils puissent seulement donner de l'argent afin que le Congolais aussi meure chaque jour ici. Vous voyez?
Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir appelé. Et Léon, vous nous avez également rejoint. Léon, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Quelle est votre réaction, Léon?
Merci, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Je pense que l'impact des actions de la CPI ici en RDC reste largement négatif dans la mesure où cette juridiction paraît être sélective et ce sont les plus faibles qui en sont victimes, monsieur le journaliste. Il y a des personnalités politiques dans ces pays, et militaires même, qui ont commis les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais qui n'ont jamais été interpellés par la CPI. Par conséquent, la communauté des États-Unis les sanctionne même. Vous vous rendez compte que la CPI, pour nous, la RDC, même l'Afrique en général, parce qu'il n'y a que les Africains qui en bâtissent là-bas. Nicolas Sarkozy, il y a des présidents français qui ont organisé des massacres. Ils sont venus tuer notre président même africain ici. Et les Blancs ont vu ça, ils ont fait semblant. Ils n'ont pas poursuivi ces messieurs-là. Alors, vous pouvez vous rendre compte que aujourd'hui, la CPI, ARDC, c'est comme un outil, c'est ça la conclusion qu'on peut mettre, un outil entre les mains de ceux qui sont au pouvoir pour se débarrasser de leurs opposants. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, avec des crimes qu'ils commettent, À l'exemple de l'État menace, je suis là, originaire de Kassai, c'est là même que je suis. Et tous ces gens-là connus comme massacre. On a toujours dit, bon, on est en train d'essuyer les dossiers, on est en train d'essuyer les dossiers. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, monsieur le procureur de la CDI peut ouvrir des enquêtes crédibles?
Alors, Léon, si je comprends bien, pour vous, vous liez les sanctions des États-Unis et d'autres personnalités de l'RDC qui ont été sanctionnées par l'Union européenne suffisent déjà comme matière d'enquête à la CPI pour sanctionner ces personnalités.
Exactement, monsieur le journaliste. Il n'y a pas encore d'autres choses à chercher. Les États-Unis, l'Union européenne ont déjà fait des enquêtes. Ils ont des preuves. Pourquoi la CPI ne veut pas en servir pour traquer tous ces malfaiteurs?
Voilà, merci beaucoup. Alors, parce qu'il s'agit d'une question directe, on va directement poser la question à Patrick Tibouyi. Patrick, comment vous réagissez?
Bon, d'abord, il est important de pouvoir corriger en apportant un démenti formel sur le fait que la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction qui se laisserait corrompre, qui se laisserait utiliser, qui serait aux mains des uns contre les autres. Non. La Cour pénale internationale est une institution judiciaire. Et en tant qu'institution judiciaire, son fonctionnement est régi par le texte fondamental dont nous célébrons l'adoption le 17 juillet, que est le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et ce texte fondamental règle la manière dont la Cour devrait agir. Et un des éléments fondamentaux de son action, c'est son caractère complémentaire. Ça, c'est un élément fondamental de son action. Un autre élément également, c'est que toutes les procédures qui ont lieu devant la Cour pénale internationale doivent se faire conformément aux dispositions du statut de Rome. C'est-à-dire les procès qui ont eu lieu, les décisions que les juges peuvent rendre, les peines qui sont prononcées. On ne peut pas, sinon ce n'est pas du droit que l'on fait. Si on doit, par exemple, poursuivre quelqu'un et dès le départ, parce qu'il s'agit de crimes graves, considérer que la personne sera condamnée, ce n'est plus un procès équitable, ce n'est plus le droit. Or, la personne est présumée innocente, telle que le définit le statut de Rome de la Cour pénale internationale, et donc, lorsque la personne est poursuivie par le procureur devant les juges de la CPI, il reviendra au juge, au regard des éléments de preuves qui seront présentés, de rendre la décision. Soit il est reconnu coupable, soit il est acquitté. Et même pour la peine, ce n'est pas parce qu'il s'agit des crimes qui seraient graves que la Cour va, les juges vont dire, ok, la peine maximale du coup, il faut qu'il justifie. Donc même le prononcé de la peine est réglementé par les prescrits du statut de Rome. Donc tout ce que fait la Cour pénale internationale, le bureau du procureur, les juges, est fait en se basant sur le statut de Rome. Donc la Cour ne peut pas être utilisée par les uns contre les autres, par les forts contre les faibles, parce que ça, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas sa responsabilité. Elle a un mandat strictement judiciaire. Et au-delà de cela, il ne faut pas perdre de vue que, par exemple, pour la RDC, il y a un grand travail qui est fait par la Cour, qui a été fait par la Cour pénale internationale. Vous l'avez cité, il y a eu des affaires qui ont été portées devant la Cour pénale internationale pour la situation en RDC, pour lesquelles les décisions ont été rendues. Il ne faut pas oublier que dans ces affaires, il y a eu des victimes. Des victimes qui, pour certaines affaires, ont eu le droit de bénéficier des réparations. Dans toutes les affaires, les victimes, ça c'est un aspect qu'on oublie. On oublie qu'il y a eu des victimes. Que lorsqu'il y a eu ces affaires, vous avez eu des victimes qui ont participé aux procédures et vous avez des victimes qui ont été, pour lesquelles il y a eu une décision leur accordant des réparations. C'est important, c'est fondamental. On ne doit pas perdre cela de vue. Et donc, il y a un travail qui est fait. Il y a eu des victimes congolaises qui ont participé aux procédures, des victimes congolaises qui ont bénéficié des décisions sur les réparations. Et ça, c'est aussi un élément fondamental qu'il faut mettre sous la table, parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qui est fait, il y a également la voix des victimes qu'il faut entendre. Mais c'est vrai qu'il y a encore des besoins. C'est vrai qu'il y a ce besoin de justice qui se fait encore ressentir. Mais le travail de la Cour continue, le bureau du procureur l'a dit, continue, mais il ne peut faire ce travail qu'en se conformant aux dispositions du statut de Rome.
Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui, après avoir suivi de près le procès d'Hissène Habré, l'ancien chef de l'État du Tchad, qui a été pratiquement jugé localement et condamné sur place?
Bon, on n'a pas de commentaire à faire sur une procédure judiciaire en dehors de la Cour pénale internationale. On n'a pas d'éléments à porter. On ne peut pas faire de commentaire sur cette procédure. Mais peut-être que ce que l'on peut,
Contre tous les crimes qu'il avait commis, on a refusé de l'envoyer à la CPI.
Non, M. Hissène Habré n'a jamais été poursuivi par la Cour pénale internationale. Nous n'avons pas eu d'affaire le concernant. Ça n'a rien à voir avec la Cour pénale internationale. L'affaire Hissène Habré n'a jamais été portée devant la Cour pénale internationale. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt ou de citation à comparaître délivrée contre Hissène Habré. Mais l'élément général sur lequel on pourrait insister, c'est que la Cour, le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, on l'a dit, l'a créé comme étant une juridiction complémentaire. En d'autres termes, la Cour pénale internationale ne veut pas s'approprier l'exclusivité des poursuites pour les auteurs des crimes les plus graves. Non. L'idéal, ce serait de se retrouver dans une situation où la Cour pénale internationale a zéro affaire. Mais elle ne va pas cesser d'exister parce qu'elle a été créée comme une juridiction permanente. Elle a zéro affaire. Et si elle a zéro affaire, cela voudrait dire que les juridictions nationales sont en train de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. Mais c'est bon, c'est ça l'idéal. Parce qu'à ce moment-là, les États vont assumer leurs responsabilités et la Cour ne pourra agir que de manière complémentaire. Donc si la Cour n'a pas d'affaire, elle ne cessera pas d'exister parce qu'elle a été créée comme une juridiction permanente. Mais cela voudrait implicitement engager les États eux-mêmes à poursuivre les auteurs de crimes internationaux.
La CPI a aujourd'hui 22 ans. Quel bilan faites-vous de cette institution? Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Kati et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Oui, pour bien parler de l'action de la Cour pénale internationale en 22 ans d'existence et en République démocratique du Congo, il faut donner quelques précisions pour éviter de trop responsabiliser la CPI. Il faut premièrement considérer que l'action de la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales. C'est ce qui est prévu à l'article 1er du traité de Rome portant statut qui crée cette Cour même.
Oui, notre invité est revenu sur ça par plusieurs fois d'ailleurs.
Oui, oui. En ce sens, en ratifiant ces traités, les États ont eu une double obligation. Donc, la première obligation a consisté à prévenir la commission des crimes internationaux qui sont commis dans leur territoire. Et en République démocratique du Congo, en 2015, le Parlement a adopté une loi allant en ce sens pour obéir à cette obligation, prévenir donc, définir, intégrer ces crimes dans les droits internes. Nous avons la loi numéro 15/022, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. Alors, dans ce décret, les articles 221, 222 et 223 définissent, prévoient et punissent respectivement les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Alors, les États ont aussi l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour. C'est ainsi que le Parlement, la même date du 31 décembre 2015, a modifié les codes de procédure pénale pour insérer les modalités qui permettent au parquet congolais de coopérer avec la Cour pénale internationale en ce qui concerne la répression de ces crimes. Donc, la responsabilité première incombe d'abord aux États qui doivent prévenir et réprimer les violations graves du droit international humanitaire commis sur leur territoire. Parce que si vous lisez l'article 1er du traité, l'action de la CPI est déjà au départ limitée. Donc elle ne peut pas exercer sa compétence directement.
Oui, mais Joël, là ça relance encore le débat sur les justices africaines qui du reste ne sont pas indépendantes.
Oui, je vais arriver.
Oui, rapidement,
la CPI
parce que
ne peut poursuivre que si les États dans les territoires desquels ces crimes sont commis ne poursuivent pas, donc ne veulent pas poursuivre, ne sont pas en mesure de poursuivre ou poursuivre dans les seuls buts de soustraire les auteurs de la compétence de la Cour pénale internationale. Or, dans le cas de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, tout l'arsenal juridique est complet et vous pouvez vous rappeler qu'en 2005, en 2006, les juridictions militaires, sans attendre même cette loi de mise en œuvre de 2015, avait déjà, sur pied du statut de Rome, réprimé les crimes contre l'humanité commis à Tongombouyou en province de l'Équateur. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que il est clair que la République démocratique du Congo, qui a toutes les possibilités, parce que les magistrats ont les lois, tout ce qui est possible pour réprimer ces
crimes. Donc, on a plus besoin de la CPI.
Oui, on n'a pas forcément besoin de la CPI parce que rien nous manque aujourd'hui. Sur le plan de la législation interne, ces crimes sont déjà prévus dans notre code pénal.
On peut se passer de la
CPI. Et la procédure pénale congolaise permet déjà au parquet congolais militaire et civil de poursuivre, de poser les actes qui les permettent de poursuivre ces crimes-là.
Merci beaucoup, Joël, d'avoir appelé des
questions. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît.
Mais rapidement, parce que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent d'intervenir.
Un dernier élément.
Oui, allez-y.
Mais la reproche qu'on peut faire à la CPI, c'est qu'il est aujourd'hui clair que la République démocratique du Congo n'a pas la volonté de poursuivre. Elle est en train de bénir l'impunité. Alors, comme la condition maintenant est remplie pour que la CPI exerce sa compétence, on ne comprend pas pourquoi, même si ces crimes sont imprescriptibles, on ne comprend pas pourquoi les auteurs bénéficient de cette impunité temporaire. Il y a des crimes ont été commis à Yumbi, il y a les rapports de la MONUSCO, les crimes ont été commis au Kassai, il y a les rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc la CPI fait exercer sa compétence pour éviter à ce que...
Oui, Joël, ne coupez pas. Réaction rapidement. Patrick, vous avez quand même suivi des reproches formulées par Joël.
Bon, comme d'abord Joël a bien illustré le fondement sur lequel on a échangé longuement en parlant de la complémentarité, mais en parlant de la remarque qui soulève, ce que l'on peut dire, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est que le bureau du procureur, pour l'ensemble de la situation qui provient en RDC, le bureau du procureur continue à échanger, maintient le contact et fait un suivi régulier de tous les dossiers avec les autorités congolaises. Et ça dans le cadre de la complémentarité, de la sélection et de la hiérarchisation des affaires. Donc il y a ce contact permanent, régulier, qui a lieu avec les autorités congolaises, mais le bureau du procureur, dans ses déclarations, l'a toujours appelé. Elle n'hésiterait pas à agir en fonction de son mandat, mais cette action ne pourrait être faite que conformément à la complémentarité. Donc il y a une réelle volonté de la part du bureau de procureur de pouvoir continuer à exercer son mandat pour la situation en RDC, mais comme on l'a dit, l'exercice de son mandat répond à un cadre spécifique, et ce cadre spécifique, c'est le statut de Rome. Mais au-delà de cela, il y a ce contact régulier avec les autorités congolaises par rapport au suivi des dossiers qui est fait. Donc nous attendons quelle sera la suite.
Voilà, Joël, vous avez suivi quand même. Vous êtes satisfait par rapport à votre préoccupation?
Je ne suis pas satisfait parce que, en dehors même des crimes commis en République démocratique du Congo, les ressortissants congolais ont été aussi victimes de ces crimes en Angola et en République centrafricaine. Vous voyez, la justice congolaise n'est pas aujourd'hui en mesure d'exercer sa compétence universelle par rapport à ces crimes. Le professeur Sambo Kolombe a fait une étude là-dessus. Il va la publier bientôt. Alors, c'est à la CPI qui est compétente de réprimer les crimes dont les Congolais sont victimes commis à l'étranger, le cas du Congo-Brazzaville en 2014 et en Angola, de les faire. Vous voyez, donc on ne responsabilise pas totalement la Cour pénale internationale, mais là quand même ça part de responsabilité parce qu'elle est face à un État qui est dans l'impossibilité technique de poursuivre ces violations graves-là.
Merci beaucoup,
et les
Joël.
Victimes continuent à attendre que justice soit faite.
Merci beaucoup, Joël, d'avoir contribué dans cette émission. Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Okapi, et bonjour à tous nos auditeurs.
Vous avez la parole, Patrick. Quelle est votre réaction?
Oui, pour moi, je dirais 22 ans après, la Cour pénale internationale n'a pas été vraiment d'un grand apport dans la lutte contre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de génocide. Pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Prenons le cas de l'Est de notre pays qui fait toujours face à ces crimes odieux depuis l'arrivée de l'AFDEL avec les guerres dites d'agression par nos trois voisins. Et nous voyons que ces crimes continuent jusqu'à nos jours. Et ce sont les mêmes auteurs qui courent avec des groupes armés qui changent des noms, en complicité malheureusement avec les dignes fils du pays, notamment nos autorités politico-administratives ainsi que militaires, que deux fois on a eu à capturer les présumés ADF qui ont cité leurs commanditaires et auteurs intellectuels. Et nous voyons que les victimes continuent à se plaindre et leurs bourreaux continuent leur sale besogne sans être inquiétés. Alors mon impression est que la CPI n'agit pas en organe indépendant, mais plutôt au service de la communauté internationale à travers ses dirigeants qui décident de qui déférer à la cour et qui d'autre continuer à protéger. Prenons le cas de Jean-Pierre Mbemba, arrêté en 2007 et relâché malheureusement 10 ans après, soit en 2018, pour dire qu'il est innocent. Et les pauvres victimes de ces atrocités-là en Centrafrique, qui continuent à se plaindre aujourd'hui, qui va se charger de les dédommager? Si ce n'est pas Mbemba, que la CPI nous dise alors, qui est alors l'auteur de ces crimes? Nous prenons aussi les cas pour quitter la RDC. Nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, arrêté en 2011 et puis relâché en 2020 pour dire qu'il est innocent. Alors, qui va dédommager ces victimes des violences meurtrières après les élections? Il y a aussi le cas de Omar El-Béchir. En gros, je dirais, ceux qui ont la main mise sur cette cour doivent cesser et suivre l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, où nous voyons une volonté manifeste du chef de l'État de voir la justice œuvrer en toute indépendance, sans interférence politique. Il est donc encore temps pour la CPI de mieux faire, car il en va de sa crédibilité aux yeux des Africains et du reste du monde où se commettent de graves crimes à longueur de journée. Pour voilà. Ne pas citer le cas de la Syrie, le Yémen, la Birmanie et autres. Merci.
Merci beaucoup Patrick. Alors là, je découvre un message d'un auditeur qui a écrit par rapport à cette émission. Il dit, où en est-on avec les procès Cheka qui a été ouvert à Goma le 27 novembre 2018. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que nos juridictions sont incapables de pouvoir poursuivre ce chef de guerre qui a été condamné, qui a été, au fait... interpellé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à Walikale. Pourquoi ne pas les transmettre, les déférer directement à la CPI, porter cette affaire à la CPI, ça pourrait donner de résultats. Parce qu'aujourd'hui, silence radio, 2 ans après l'ouverture du procès. Merci beaucoup. Alors Chico, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Jure.
Quelle est votre contribution Chico?
Oui, d'abord, merci pour la parole que vous m'accordez, M. Gilles. Dans un même ordre d'idée avec mon prédécesseur qui vient d'intervenir, je dirais que 22 ans après, cette cour n'a pas arrivé à l'auteur tel que les Congolais le pensaient. Pour dire que cette cour n'a pas répondu aux attentes de la population congolaise. Vu tous les crimes de guerre qui se tous les crimes des gars qui étaient en train de se commettre ou d'ailleurs qui sont en train de commettre pour le moment, on se rend compte que cette cour n'a pas aidé bien les Congolais. Parce que tous les auteurs de ces crimes ne sont ni poursuivis, ne sont moins encore ni inquiétés. On se pose la question, quel est le rôle que cette cour a dans ce pays? Parce que jusqu'alors, la population congolaise continue qu'à subir. Et pourtant, on se disait que, comme les juridictions de la République ne poursuivaient pas les auteurs de ces crimes, cette cour devrait aider les Congolais à inquiéter ces auteurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette cour n'a pas aidé la population. On ne voit pas même son importance dans ce pays. On ne voit pas même l'importance de l'accord qui a été signé avec cette cour.
Est-ce que vous donnez raison à cet auditeur qui dit que nous ne sommes pas encore à même de pouvoir juger des crimes internationaux si on s'en tient seulement au cas du procès Cheka à Goma qui s'est ouvert et tout de suite après, et ça s'est fermé. Parce que silence radio, on ne sait pas.
S'il vous plaît, monsieur Gilles, je n'ai pas bien capté votre question, si vous pouvez la répondre.
Non, je disais, en quoi vos propos? Est-ce que vous donnez raison à celui-là qui dit qu'effectivement, nous ne sommes pas encore en mesure, nous, de juger des crimes internationaux dans notre pays, malgré l'arsenal juridique que nous avons? Parce que, si on prend l'exemple du procès Tcheka, qui s'est ouvert à Goma au mois de novembre 2018, et tout juste après, ça s'est fermé, silence radio, personne n'en parle aujourd'hui. Ça prouve à suffisance qu'il y a en fait cette faiblesse de nos juridictions encore.
Effectivement, je le donne en raison. Effectivement, je le donne en raison, monsieur Jure. Parce que, si vous voyez bien, dernièrement, il y a même une liste qui a été adressée par cette cour. Mais jusqu'à ce jour, personne de ces gens n'a été ni interpellé, ni poursuivi. Donc, vous comprenez que... Allô?
Oui, allez-y, allez-y.
Oui, vous comprenez que c'est un cerco. C'est un cerco. Donc la cour conditionnelle, la cour pénale internationale n'a pas aidé la population congolaise.
Merci beaucoup.
S'il y a moyen, les gouvernements congolais peuvent mettre fin à ce
partenariat. Merci beaucoup, Chris et Chico, d'avoir appelé. On va marquer une pause. On va se retrouver avec vous, chers auditeurs, vous qui avez le temps peut-être de commenter ces sujets. Nous vous rappelons nos numéros, les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Voilà, nous revenons à vous, Patrick Tchibouyi. Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre réaction, Patrick?
Merci beaucoup pour les différents points de vue qu'ont partagé les auditeurs. Le premier élément, c'est qu'il est important, une fois de plus encore, d'insister et de rappeler que la Cour pénale internationale est une institution judiciaire indépendante et impartiale. Cette institution n'est contrôlée par aucun pouvoir politique, par aucun organe quelconque, par aucun regroupement politique, social ou autre. Non, elle est une institution judiciaire indépendante et impartiale. Il n'y a pas de mainmise politique sur l'action de la Cour pénale internationale. Ça, c'est fondamental et important à insister là-dessus. Et lorsqu'on parle des activités judiciaires, pour les auditeurs qui nous suivent, qui peuvent se donner la peine d'aller sur le site internet de la Cour, toutes les décisions judiciaires sont sur le site. Donc même lorsque vous suivez une affaire, qu'une décision a été rendue, que ce soit de culpabilité ou d'acquittement qui est rendue ou confirmée par la chambre d'appel, toutes ces décisions sont sur le site. Donc il est possible de pouvoir aller... prendre ces décisions, aller sur le site et pouvoir pourquoi et donc de quelle manière les juges ont abouti à un raisonnement conduisant à un acquittement ou conduisant à une culpabilité. C'est fondamental, c'est extrêmement important. L'autre élément aussi, il faut ajouter, c'est que bon, c'est bon de connaître un peu comment fonctionne l'institution en termes de mode de saisine. La Cour ne peut pas agir, déclencher son action parce que les victimes d'un État, il y a des personnes victimes d'un État parti qui se retrouveraient victimes des crimes qui auraient été commis. Non, la Cour peut exercer sa compétence lorsque l'auteur du crime est le ressortissant d'un État parti. Et quel que soit le lieu où l'auteur du crime a commis, quel que soit le lieu où le crime a été commis. Donc si vous avez un ressortissant membre d'un État parti qui commet le crime dans n'importe quel territoire, il y a la possibilité pour la Cour, pour le bureau du procureur de mener des enquêtes et de pouvoir le poursuivre, parce qu'à ce moment-là, il s'agit du ressortissant auteur d'un État qui est membre. Donc il n'y a pas de possibilité si les victimes sont des ressortissants d'un État parti. Il s'agit de l'auteur, de celui qui a commis le crime. Donc c'est un des modes, c'est parmi les moyens par lesquels la Cour pénale internationale peut exercer son action. Mais toujours est-il que, de toutes les informations que nous avons, il faut toujours que les auditeurs se posent la question de savoir, premièrement, de quel crime s'agit-il? Il ne s'agit pas de tous les faits. Il peut s'agir de violations graves des droits de l'homme.
Mais pour que la Cour exerce son mandat sur le plan de la compétence matérielle, il faut qu'il s'agisse d'un des crimes relevant de la compétence de la Cour. Mmh. Tous les faits graves des droits de l'homme ne sont pas forcément un crime contre l'humanité, un crime de guerre, un crime de génocide ou un crime d'agression. Donc il faut voir de quel crime s'agit-il selon le statut de Rome et se poser la question de savoir est-ce que l'État dont, où le crime est commis, où l'État qui est compétent ne poursuit-il pas, en sachant que la Cour est une juridiction complémentaire. Ça, c'est important.
Voilà. Alors, Patrick, en des termes clairs, pour que la lanterne des uns et des autres soit éclairée, aujourd'hui, ce que nous vivons en Ituri, avec la Codeco, il s'agit de quel crime?
Comment qualifiez-vous
cette infraction?
Je n'ai pas le mandat pour pouvoir procéder à une qualification des faits, mais simplement réitérer que par rapport à ce qui se passe en Ituri, vu la gravité des faits, cela a nécessité le bureau du procureur de faire une déclaration sur les faits en question. Donc il y a la déclaration du 4 juin où le procureur de la Cour pénale internationale dénonce les actes qui sont commis à Ituri. Dans la déclaration du 4 juin, et en rappelant qu'il souvait, le procureur souvait la situation qui prévalait en RDC, qu'elle n'hésiterait pas à agir conformément au caractère complémentaire de la Cour pénale internationale. Et dans cette déclaration pour la situation en Ituri, le procureur annonce l'envoi d'une mission, on en a parlé, d'une mission en RDC lorsque la situation du Covid le permettrait, pour pouvoir justement voir avec les autorités congolaises l'évolution de la situation et des dossiers. Et comme on l'a dit au départ, cette annonce de cette mission de la déclaration du 4 juin, il ne s'agit pas d'une mission des enquêteurs. Donc c'est pour vous dire que ce qui s'est passé en Ituri n'a pas laissé le bureau du procureur indifférent. C'est ce qui a justifié la publication de cette déclaration du 4 juin de la part du bureau du procureur.
Voilà, alors nous lisons un message là, on va découvrir ensemble avec vous et puis on va commenter. Patrick, il y a Léo, Émile Kankondé au Kasaï Central, il dit l'impact des actions de la CPI, précisément chez nous en RDC, reste largement négatif, dans la mesure où cette juridiction paraît être pour les plus faibles, particulièrement les opposants. Nous avons des généraux, des FRDC et de la police dans ces pays qui ont commis les mêmes crimes que Laurent Kunda, Jean-Pierre Bemba, Bosco Tangada et les autres, qui n'ont jamais été interpellé par la Cour internationale. C'est vrai que vous n'avez pas mandat de pouvoir qualifier ces faits, mais quel est quand même le commentaire par rapport à cette réaction?
Lorsqu'on parle du bilan, on l'a dit tout au début de l'émission, il faut encore rappeler aux auditeurs qu'il faut savoir que dans la situation en RDC, il y a eu des affaires. Et que dans ces affaires, vous avez des victimes congolaises. Des victimes congolaises qui ont premièrement participé aux procédures pour faire entendre leur voix par rapport aux actes dont elles ont été préjudiciées en tant que victimes. Mais vous avez également des victimes congolaises dans la situation en RDC qui ont bénéficié de décisions sur les réparations prononcées par la Cour pénale internationale à la suite des affaires, notamment l'affaire Thomas Lubanga et l'affaire Germain Katanga. Donc vous avez là ces victimes qu'il faut entendre, ces victimes qui ont été entendues, ces victimes qui vont bénéficier des réparations. Et ça, c'est un élément important qu'il ne faut pas mettre de côté. Et au regard de l'action de la Cour pénale internationale, il ne faut pas aussi oublier que vous avez, au niveau de la Cour pénale internationale, des actions qui sont posées en dehors du mandat purement judiciaire. Vous avez le Fonds au profit des victimes, qui est une institution indépendante de la Cour, qui a été créée par les États partis au statut de Rome. Vous avez le fonds au profit des victimes, qui apporte un soutien à des victimes en RDC, qui ne sont pas liées à des affaires en cours, mais qui seraient des victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Et dans beaucoup de provinces, vous avez le Fonds au profit des victimes, cette institution indépendante de la Cour pénale internationale, qui soutient plusieurs victimes dans le cadre des projets, dans le cadre des programmes. Et ça, c'est également un aspect important qu'il faut relever. Et pour ce qui est du mandat judiciaire, pour les victimes qui vont bénéficier des réparations, il ne faut pas oublier que ces victimes qui vont bénéficier des réparations, pour lesquelles les condamnés sont reconnus indigentes, n'ont pas donc les moyens de faire face aux réparations, c'est le fonds profit des victimes dans le cadre de son mandat judiciaire qui va exécuter ces décisions sur les réparations. Donc c'est important d'avoir également à l'esprit cette action qui est faite par par des institutions comme le Fonds au profit des victimes, une institution indépendante de la Cour pénale internationale, mais qui agit dans son volet judiciaire lorsque des décisions sont rendues et que les auteurs ne sont pas capables de faire face aux réparations parce qu'ils sont indigents. Le Fonds peut être appelé par les juges à exécuter les décisions sur les réparations, mais vous avez également l'autre volet qui n'est pas un volet judiciaire, non judiciaire, le mandat d'assistance dans lequel le Fonds en RDC apporte assistance à plusieurs victimes des crimes internationaux. Et ça également, c'est un élément fondamental que, qu'il est bon de porter à l'attention, à la connaissance des auditeurs.
Merci beaucoup Patrick, on va accueillir notre auditeur. En tout cas, ça doit être le tout dernier ou avant-dernier, je crois. Yannick, vous êtes en Bandaka?
Oui, je suis en Bandaka, bonjour.
Vous avez la parole, Yannick.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer ceux qui sont intervenus avant moi. Mais j'ai commencé à dire ceci. Pour les cas de la RDC, moi, je pense que la CPI dispose d'un bilan qui est largement positif au vu de l'impact de ses réalisations dans notre pays où les gens ont notamment la culture de recourir aux armes pour... procéder au pillage des ressources naturelles. Quand on fait un petit tour à la partie centre et aussi à la partie est de la RDC, vous allez voir que les gens recourent aux armes pour piller et de ces faits-là naissent ce qu'on appelle les exactions et ça crée des affres de la guerre, ça crée des actes d'horreur qui mettent en péril les vies humaines. Vous allez voir, puisqu'on parle de la CPI, les condamnations des compatriotes congolais ici, les cas notamment de M. Lubanga et Germain Katanga, sont des exemples qui témoignent à ce que la CPI constitue, pour les cas de la RDC, un avertissement ou un élément qui pousse aux auteurs de graves crimes internationaux de se réserver ou carrément de cesser à poser des actes qui vont mettre en péril les droits humains. Parce que la RDC, c'est un pays qui se montre déjà incapable de réprimer ses auteurs de graves crimes.
Voilà pourquoi.
Lorsque la CPI estime qu'un État n'a pas la volonté répressive, elle se substitue à la juridiction nationale en vertu du principe de sa complémentarité. Parce que la CPI, en principe, n'est pas là pour se substituer aux États. Mais lorsqu'un État n'est pas à mesure de réprimer, la CPI prend place. Et voilà pourquoi les Congolais...
Donc vous estimez que jusqu'à ce jour, la RDC n'est pas en mesure de pouvoir s'assumer en matière de droits ou des crimes internationaux? Avec tout l'arsenal que nous avons actuellement.
Parce que la RDC n'a pas jusque-là à punir ou poursuivre les seigneurs de guerre qui sèment terreur et désolation à l'est du pays. Bon, je salue quand même les procès Kamina Sampour qui aboutit à la condamnation de certains auteurs des crimes qu'on a enregistrés dernièrement. Mais au niveau de notre système,
voilà, merci. Il n'y a pas une volonté. Merci Yannick. Je crois qu'on va conclure avec Patrick. C'est vrai, c'est la fête de la CPI 22 ans après. Cette commémoration qui a en RDC, vous l'avez dit, il n'y aura pas une délégation qui viendra. C'est pas une délégation pour l'enquête. Mais c'est juste pour célébrer 22 ans?
Non, la mission annoncée dans la déclaration du procureur est une mission pas pour célébrer les 22 ans, c'est une mission, parce que rappelez-vous, c'est une mission annoncée dans la déclaration du 4 juin, une mission annoncée par le bureau du procureur qui n'est pas une mission des enquêteurs. Il sera question de pouvoir échanger avec les autorités congolaises, continuer le suivi des dossiers avec les autorités congolaises en termes de suivi des dossiers par rapport au regard de la complémentarité, au regard de la hiérarchie, de la complémentarité, de la sélection, de la hiérarchisation des affaires. Donc il y a ce contact régulier de dossiers entre le bureau du procureur et les autorités congolaises. Donc la mission annoncée le 4 juin, il est important de préciser là-dessus, n'est pas une mission des enquêteurs. Il est aussi important, dans le cadre de cette commémoration du 17 juillet, de rappeler que la Cour pénale internationale a besoin du soutien de chacun d'entre nous qui croyons qu'il est important que les crimes les plus graves ne puissent pas rester impunis, qui pensons qu'il faut donner voix entendre la voix des victimes. Et ce travail de la Cour pénale internationale qui a été consacré par l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998, la Cour ne peut pas le faire seule. Les États ont une grande responsabilité dans ce travail de lutte contre l'impunité et la Cour vient apporter sa contribution. La société civile a une responsabilité grande dans ce travail de lutte contre l'impunité et la Cour a besoin de ce soutien des uns et des autres, de la société civile, des citoyens individuellement pour que effectivement les crimes les plus graves ne restent pas impunis. Soit ils sont poursuivis premièrement par la justice nationale, ou alors ces crimes sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Mais l'objectif commun de chacun de ceux qui militent pour la justice, l'objectif commun,
merci,
c'est que les crimes les plus graves ne restent pas impunis.
Patrick Tibouyi, chargé des sensibilisations à la CPI, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ainsi que nous avons célébré le 17 juillet, fête de la CPI, sur les ondes des radios Capi. Au travers de cette émission, parole aux auditeurs. À très bientôt, hein, Patrick.
Merci beaucoup à vous.
Merci également à tout le monde d'avoir participé à cette émission consacrée sur la CPI. Et Sylvain Bangouéré a assuré la mise en onde de cette émission et Pirou et Lamégie l'a réalisé. J.R. Lungembo Luabong Anji était à la présentation. On se retrouve demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.